Radio Okapi.
C'est une visite de quelques heures, principalement à l'hôpital de Panzi de Dr Denis Mukwege. C'est ce qu'entreprend ce dimanche le couple royal belge à Bukavu, Sud Kivu. La délégation retourne ce même dimanche à Lubumbashi pour boucler sa visite en RDC. Cette personne relâchée hier samedi 11 juin après 4 mois de captivité entre les mains des ADF. Elles ont été accueillies avant d'être admises aux soins vu leur état de santé par les autorités locales. Dans ce journal, vous suivrez les explications du président de la société civile Eringeti. Enfin, un mécanisme d'alerte précoce est mis en place dans la région de Butembo. Le but est de protéger la population de tout risque sécuritaire. Pour en parler, nous recevons dans cette édition César Matumo, coordonnateur intérimaire de la protection civile à Butembo. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sud Kivu, le couple royal belge est arrivé ce dimanche 12 juin à Bukavu en provenance de Lubumbashi. Une visite de quelques heures dans la province, principalement à l'hôpital de Panzi de Dr Denis Mukwege. La délégation rentre à Lubumbashi ce même dimanche pour boucler le séjour en République démocratique du Congo. Emmanuel Elamejiwa Kabidi.
Le roi Philippe est arrivé au sud Kivu par l'aéroport de Kavumu ce dimanche 12 juin à 10h locale. Au bas de la passerelle, Jean-Michel Sama Lukonde, premier ministre congolais, avec d'autres membres du gouvernement central, dont le ministre de budget, celui de la santé ainsi que de la communication et médias, mais aussi du gouverneur de province du sud Kivu. L'étape de l'hôpital de Panzi consiste à visiter Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et quelques femmes victimes de violences sexuelles. Le séjour du couple royal belge se clôture ce même dimanche à Bukavu par la visite de l'Institut international de l'agriculture tropicale IITA sur le site de Kalambo, un laboratoire agricole qui porte le nom de Olusegun Obasanjo. Ici, le roi Philippe doit rencontrer la communauté belge vivant dans l'est de la RDC. Signalons que les Belges avaient opté de construire la ville de Bukavu à son emplacement actuel sur le lac Kivu pour des raisons stratégiques. Après 1960, Bukavu a hérité de l'administration belge plus de 220 maisons de fonctionnaires de l'État, mais aussi d'importantes infrastructures scolaires. Aujourd'hui, toutes ces infrastructures sont soit spoliées, soit délabrées. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Vous venez de le suivre. Sur place à Bukavu, le couple royal visite l'hôpital de Panzi où travaille le prix Nobel de la paix de 2018, le docteur Denis Mukwege. Outre ses missions de soins classiques, cette institution de santé est surtout réputée mondialement pour la chirurgie reconstructive pratiquée par le docteur Denis Mukwege, mais aussi pour son modèle de guérison pour les survivantes de violences sexuelles. En quoi consiste ce modèle mondialement reconnu et dupliqué dans plusieurs pays? Combien de survivantes de violences sexuelles en ont bénéficié et avec quel impact? Tentative de réponse avec Cynthia Bachizi.
One Stop Center, c'est le modèle de Panzi centré sur tous les besoins des victimes. Il repose sur 4 piliers. Docteur Rukungu Nehema, chargé de la réplication de cette prise en charge holistique à l'hôpital de Panzi.
Au niveau médical, on estimait qu'on avait fait tout ce qu'on devait faire. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'était un problème psychologique avec toute la somatisation. La plupart des survivants qui arrivaient avaient des problèmes où on avait tout pillé chez eux. Même le problème psychologique, pour y répondre à 100%, on devait répondre à cette question socio-économique. Après la réinsertion des premières victimes, il y a eu les anciennes qui rentraient pour dire « je connais en fait la personne qui m'avait fait ça ». Et donc, le besoin de justice s'est fait ressentir.
Selon Dr Rukungu, depuis 1999, presque 68 000 survivantes des violences sexuelles ont été prises en charge sur le plan médical et psychosocial. Leur âge varie entre 6 mois et 80 ans. Quid de deux autres piliers?
Sur le plan socio-économique, actuellement, nous comptons 252 mutuelles de solidarité. Nous avons à peu près 811 associations villageoises d'épargne et de crédit. Sur le plan juridique, actuellement, nous avons 24 cliniques juridiques à travers le pays et la création même des groupes pour la masculinité positive.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, remise à la famille du feu premier, Premier ministre Patrice Emery Lumumba, de son passeport diplomatique congolais. La cérémonie a eu lieu ce samedi 11 juin au ministère des Affaires étrangères. Pour le vice-premier, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, cette pièce d'identité qui était attendue depuis 61 ans permet au feu Patrice Emery Lumumba d'effectuer son dernier voyage de retour vers la terre de ses ancêtres. Pierre Lamégie pour plus de détails.
C'est dans une ambiance assez lugubre et une émotion doublée de tristesse que le premier des fils Lumumba, François Lumumba, reçoit des mains du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ses passeports diplomatiques. Cette cérémonie marque ainsi le processus du rapatriement des restes du corps de Patrice Emery Lumumba qui doivent en principe arriver à Kinshasa le 21 juin courant, ce qui permettra ainsi aux Congolais de faire le deuil attendu du héros national depuis plusieurs décennies. Pour Christophe Lutundula, ces jours qui marque la remise du passeport diplomatique au tout premier ministre de l'histoire de la RDC est un grand jour, un jour mémorable et indispensable non seulement pour sa famille biologique mais aussi pour la nation tout entière. Notons que le rapatriement des reliques du feu Patrice Emery Lumumba était un engagement du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le processus est déjà en marche avec des cérémonies qui auront lieu en Belgique avec l'étape finale en RDC où Patrice Emery Lumumba reposera dans un mausolée dont les travaux de construction se poursuivent à l'échangeur de Limété.
Et puis cette information en plus bref qui vient de nous parvenir. Deux combats opposent une fois de plus depuis 6h du matin ce dimanche les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 en plein centre de Bunagana. C'est à une vingtaine de kilomètres à l'est de Rutshuru centre, à la frontière entre la RDC, l'Ouganda et dans le groupement Djomba. Le M23 en provenance de Tchanjou et Runyonyi a débordé pour attaquer les FARDC basés à Bunagana, affirment des sources locales. La population est présentement en fuite en Ouganda, indique le même source. Le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, promet de se prononcer dans les heures qui suivent. Alors, nous avons dit cela au sommaire. Après 4 mois de captivité, les ADF ont relâché 7 personnes ce samedi à Eringeti. La société civile locale qui livre la nouvelle renseigne que, aussitôt accueillies par les autorités locales, toutes les victimes ont été admises dans une structure sanitaire pour des soins de première nécessité compte tenu de leur état de santé qui n'est pas bonne. Bravo Vukulu, son président, l'explique au téléphone de Gulène Kassassia.
C'était dans les avant-midi d'hier 11 juin 2022 que les autorités de Eringeti ont reçu 7 personnes qui, en provenance de la Brousse, selon ces personnes, se disent qu'ils ont terminé 4 mois en captivité des ADF. Ce sont les ADF eux-mêmes qui ont décidé de les relâcher. Et ces derniers sont venus jusqu'à Eringeti, on les a accueillis. Il y a 3 habitants, tous du sexe masculin de Eringeti. 4 autres, dont une femme, sont de Oicha et les autres de Mbaou et Mavivi. Ils nous disent que leur rôle qu'ils jouaient là à Brousse, ils étaient des porteurs des bités de guerre que les ADF gagnaient dans différentes attaques. Et c'est eux-mêmes qui les ont libérés. Ils ont dit que non, ils ont fait beaucoup d'états avec eux. Ils doivent gagner leur domicile. Tout juste hier, on a orienté toutes les victimes au centre de santé pour la réception des premiers soins puisqu'ils étaient abattus. Aujourd'hui, là, on est dans le processus de remettre chacun dans sa famille d'origine.
Autre nouvelle, l'ONG Justice Plus a réuni vendredi dernier à Bunia des autorités coutumières et acteurs de la société civile, ainsi que des responsables de 8 groupements sportifs du territoire de Djougou pour l'élaboration du calendrier des matchs de football intercommunautaire dans cette entité territoriale. C'est dans le cadre du projet dénommé pour un Djougou Pacifique, financé par les fonds de cohérence pour la stabilisation. Bienvenue Ouké, le chargé de programme au sein de l'ONG Justice Plus, précise que le but de ces activité culturelle est de renforcer la cohésion sociale entre les communautés. Il est au micro d'Anastasie Nehema.
L'objectif du projet, c'est le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés en Djougou. Parmi les activités, il y a des activités sportives et culturelles. Vous savez, les sports, la culture sont des connecteurs entre les gens, entre les parties au conflit. Nous tous, nous savons qu'on peut être en conflit sur un aspect, mais il y a d'autres aspects qui nous unissent. Et il faut beaucoup plus miser sur certains aspects-là qui nous unissent, notamment les sports. Et nous avons pensé que la jeunesse, qui est au centre de notre projet, peut donner des élans de cohésion sociale qui peuvent permettre les communautés de vivre ensemble. Ça signifie, lorsque les jeunes se déplacent d'une communauté à une autre pour aller jouer des matchs, des activités culturelles, ça permet à ce que les communautés puissent communier, puissent se fréquenter. C'est ainsi que nous avons voulu renforcer cette cohésion-là à travers les activités culturelles et sportives.
Au Sud Kivu, troisième et dernier jour, vendredi, dans la ville d'Uvira, des audiences publiques sur le dossier opposant le ministère public à M. Jacques Rukabo Mbio Mbio. Cet agent de la police nationale a été condamné à 10 ans de servitude pénale pour meurtre et au paiement à titre des frais d'instance de l'ordre de 200 000 francs congolais pour avoir tué par balle un civil et blessé 6 autres mardi dernier lors d'un échauffourée à Kalima Bengue à Uvira. Signalons que ces prévenus était poursuivi pour 4 infractions, dont le meurtre, la dissipation des munitions, les coups et blessures volontaires aggravés et les coups et blessures simples. Fiston Goma.
Le tribunal militaire a établi toutes les infractions retenues contre l'agent de la police Jacques. 10 ans de servitude pénale, cette peine lui a été rattachée à l'incrimination de meurtre par le fait conjugué en concours idéal et matériel. Le condamné a bénéficié des circonstances atténuantes dues entre autres à son esprit coopératif avec le tribunal, à sa délinquance primaire, le poids de son âge et sa famille nombreuse ainsi que les services qu'il a rendus à la nation. Le premier substitut de l'auditeur militaire de garnison, le magistrat Douglas Banzé.
Il est dans la police depuis 2010. Il avoisine déjà plus de 55 ans d'âge. Il n'a aucune formation de la police. Il n'a jamais appris à tirer. C'est ainsi qu'il n'a pas pu faire la différence entre un tir non dangereux et un tir dangereux. Et malheureusement, dans ce cas d'espèce, il a tiré dans la foule, causant ainsi la mort de M. Senga et blessé 6 autres personnes. Aux éléments des phares d'essai de la police, de ne plus jamais commettre ce genre de choses. Ils doivent adopter un comportement responsable et mettre en tête que la police a une obligation légale ou régalienne de protéger la population et ses biens, et non pas de tirer dans la foule.
Le condamné à 5 jours d'interjeté appel. D'Ouvira Fiston Mamayaba, la radio Okapi.
À Bandundu, au Kwilu, la coordination provinciale de l'Observatoire congolais contre la traite des êtres humains, au OECTEC, a organisé vendredi dernier une journée de réflexion sur la problématique de la lutte contre la traite des personnes et du trafic des migrants. Ces assises tenues dans la salle de réunion du barreau du Kwilu a pour objectif de sensibiliser et renforcer les capacités d'une 20aine de participants, dont les acteurs de la société civile et les magistrats. Le but étant d'être à mesure d'identifier et de dénoncer ce phénomène. Selon Baudouin Kipaka, premier président de la cour d'appel du Kwilu et formateur de droits humains, cette province n'est pas épargnée par ce fléau. Déjà 5 cas de traite de personnes sont enregistrés ces derniers temps. Les propos de Bodo Kipaka Basilumu ont été recueillis par Irène Mbouma.
Les notions de la traite des personnes et du trafic des migrants. Nous en avons profité pour essayer un peu de développer ces notions en insistant sur la qualification de la traite d'êtres humains, les éléments constitutifs. Nous avons essayé un peu d'expliquer le cadre légal congolais et l'état de lieu de cette législation. Et ensemble avec les participants, on a identifié les causes et les conséquences de ce phénomène qui est méconnu ici dans la ville de Bandundu. Heureusement que dernièrement, on a commencé à identifier certains cas qui sont traduits en justice. Et après leur formation, je crois qu'ils vont se mettre au travail pour continuer à identifier les victimes et les auteurs et les traduire en justice pour lutter contre l'impunité de ces phénomènes qui s'imposent dans la province du Kwilu. Et ils vont dénoncer ces cas pour que la justice fasse son travail. Je tiens à vous informer que sur le plan judiciaire dans la province du Kwilu, au niveau de Kikwit, c'est là où on a enregistré beaucoup de cas de la traite des enfants et des jeunes filles. Au niveau du tribunal pour enfants, nous avons connu 3 cas. Et au niveau du tribunal de grande instance, il y a 1 cas. Et au niveau des Bandundu, nous avons 1 cas qui est en instruction. C'est pour vous dire que par rapport au temps passé, aujourd'hui, nous avons maintenant des cas qui sont dénoncés.
Entre-temps, le Parlement d'enfants de Boutembo Lubero a réuni hier samedi plusieurs dizaines d'enfants orphelins et des déplacés en vue de leur parler principalement de leurs droits et devoirs. Il est également question de susciter en eux la culture d'amour et la considération mutuelle, indique Christian Mbassa, vice-président du Parlement d'enfants. Un repas d'ensemble et un match de football ont clôturé cette activité organisée en prélude de la journée de l'enfant africain le 16 du mois en cours. Sadiki Aboubakar.
Toutes les catégories d'enfants ont été représentées dans cette activité, même ceux qui vivent en famille auprès de leurs parents. L'objectif, selon Christian Mbassa du Parlement d'enfants, était de cultiver le sentiment d'amour et des considérations mutuelles entre ces enfants en dépit du fait qu'ils ne disposent pas des mêmes avantages sociaux.
Nous avons voulu passer état avec les enfants déplacés, les enfants orphelins, les enfants pygmées, pour leur montrer qu'ils doivent vivre ensemble sans autant discriminer une telle ou telle autre catégorie d'enfants. Il y a un nombre d'enfants qui sont pris en charge dans leur famille qui ont été aussi présents. Donc nous avons été là avec presque toutes les catégories d'enfants. Alors on a voulu montrer à tous ces enfants-là qu'ils doivent apprendre à se considérer mutuellement dans la société.
Mumbere Muero John est encadreur des enfants venus de l'orphelinat Malaika, un des nombreux orphelinats de la ville. D'après lui, cette activité permet à ces enfants de se considérer au même titre que leur père dans la société en termes de droits.
C'est une rencontre qui a fait remis la considération des enfants. Lorsqu'ils peuvent approcher les autres, manger, collaborer, faire jouer avec les autres, ça crée un estime à cet enfant en question.
Après la petite fête, tous se dirigent au terrain de foot.
Mon équipe de déplacés va gagner les orphelins. 3 buts.
Ah, 3 buts à combien?
0.
3 buts à 0? Boutembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Tripoli, la capitale libyenne, des affrontements entre groupes armés dans la nuit de vendredi à samedi ont provoqué de scènes de panique. Bilan, un combattant tué et d'importants dégâts matériels. Ces affrontements ont opposé deux milices de la brigade ASS, considérée comme favorable au premier ministre Abdelhamid Obeiba, et à celle d'Al-Nawasi, proche du premier ministre rival Fatih Bachaga. Après ces affrontements, la mission d'appui des Nations Unies en Libye s'est montrée profondément préoccupée par ces combats qui ont mis en danger la vie des civils. Stéphanie Turco-Williams des États-Unis, représentante spéciale et chef par intérim de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, appelle au calme.
L'invité.
Les autorités politico-administratives et sécuritaires, mais aussi les acteurs de la société civile et de la protection civile de Boutembo et Lubero, s'étaient réunis mardi dernier à Boutembo en vue d'évaluer les systèmes d'alerte précoce mis en place au sein de la communauté dans le but de protéger la population de tout risque sécuritaire dans la région. Ces systèmes constituent notamment des outils et des personnes mises en place par le gouvernement et ses partenaires, dont la MONUSCO. César Matoumo, coordonnateur intérimaire de la protection civile à Boutembo, nous parle de ces mécanismes et son efficacité dans cet entretien réalisé par Sadiki Aboubakar. Suivez.
César Matoumo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous pouvez nous dire en un mot quels sont les outils de protection que vous disposez en tant que protection civile à ville de Boutembo?
Comme vous le savez, le système d'alerte précoce, c'est un outil de la prévention des risques. Parce que pour prévenir un incident, celui qui est appelé à intervenir doit posséder les formations à temps. C'est ce que nous sommes en train d'évaluer ces outils. Au niveau de la MONUSCO, il y a des comités locaux de protection qui sont implantés partout à ville de Boutembo. Au niveau de la protection civile, il y a les numéros verts qui sont mis à la disposition de la population, mais il y a aussi des observateurs communautaires qu'on forme dans les périphéries de la ville, même dans les territoires de Lubero, civils comme policiers qui sont formés, dotés, en fait, d'alerter l'autorité à taille utile, afin que l'autorité intervienne avant que le pur n'arrive.
Alors, vous avez évoqué des numéros verts qui sont mis en place par la MONUSCO. Qui gère ces numéros?
Ce sont les gens qui vivent dans la communauté, qui maîtrisent bien la communauté, la cartographie, qui maîtrisent la langue de la communauté. Ce sont des qui détiennent ces numéros afin de remonter les formations aux partenaires de réponse, aux partenaires d'assistance qui sont les autorités qui doivent intervenir pour prévenir tout incident.
Par exemple, il y a un cas d'incursion des bandits dans mon quartier et moi je prends le numéro vert, j'appelle pour intervention et celui qui me reçoit devra être qui?
Au niveau de la MONUSCO, il y a déjà des points focaux dans tous les quartiers. Au niveau de la protection civile, il y a déjà un numéro vert qui est géré au niveau de Goma mais qui couvre toute la province du Nord Kivu. Et ce numéro au niveau de la protection civile, c'est le 082 08 00 001. Celui d'Airtel, c'est le 09 99 00 405. Ça, c'est le Airtel. C'est détenu à Goma par toute une équipe qui veille jour et nuit afin de remonter les informations qui viennent de la base. Parce qu'au niveau de la base, il y a des observateurs communautaires qui doivent, n'est-ce pas, remonter les informations. Et toute la population est appelée à remonter les informations. Parce que le numéro, il est vert. C'est-à-dire que c'est le destinataire, c'est celui que tu appelles qui paye la facture. C'est-à-dire que tu peux faire un message avec ce numéro, tu peux faire un appel avec ce numéro et c'est géré au niveau de Goma.
Alors, ne voyez-vous pas que le système est assez lourd? Parce que moi, j'appelle de Boutembo. L'intervention efficace, c'est à Boutembo. mais celui qui reçoit l'appel est à Goma.
Effectivement, comme j'ai allé dire, c'est un système. Tous les partenaires à la réponse sont dans ce système-là. Comme un système WhatsApp. Quand vous êtes dans un groupe WhatsApp, quand une information tombe, au même moment vous êtes informé si vous êtes connecté. Donc c'est aussi une plateforme où toutes les autorités sont dedans. Donc bien que géré à Goma, il y a toute une cartographie numérique. L'ATE est connecté, les maires sont connectés et toutes les autorités à différents niveaux sont connectées. Il n'y a pas de question de lourdeur. Et d'ailleurs, ça permet vite un suivi. Au même moment, la personne qui doit intervenir à la base est informée. Au même moment, son chef hiérarchique, qui est le gouverneur, est informé. Ce système est installé au nord Kivu, dans l'Ituri, au sud Kivu, dans le Haut-Katanga et dans la Tchou.
La plupart des fois, il y a des habitants qui disent appeler ces numéros verts, mais l'intervention vient souvent le lendemain pour constater les dégâts. D'où vient cette lourdeur-là en termes d'intervention?
C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ensemble, nous qui intervenons dans le système d'alerte précoce, du côté gouvernement, la protection civile, du côté partenaire, Monisco, ABA et tous les autres, nous sommes en train de nous regarder dans les yeux pour nous évaluer. Donc, s'il y a des réponses qui tardent à venir, c'est qu'il y a un problème de performance. Mais il y a aussi des alertes qui sont répondues. Et quand une alerte est répondue, ce n'est pas à dire que tout le village saura qu'on a répondu à une alerte. Donc, ça a une dimension de renseignement, ça a une dimension de confidentialité. Même quand l'alerte remonte, ce n'est pas toute la communauté qui sera au courant que X ou Y a remonté l'information. Donc, il y a une confidentialité, c'est ça la valeur du système d'alerte précoce de la protection civile.
Que dites-vous de ces alertes qui sont lancées sur les réseaux sociaux par les membres de la communauté?
Les acteurs qui sont dans la communauté, ils doivent savoir maintenant capitaliser ces informations et les canaliser dans une bonne voie. Ça peut être dans un groupe WhatsApp ou même l'autorité n'est même pas membre, sinon ça ne va pas produire des effets. Donc, les alertes, c'est une bonne chose, mais il faut les faire dans une bonne voie.
La bonne voie, ça veut dire?
Il faut atteindre l'autorité par le numéro d'alerte, qui sont les numéros verts de la protection civile. C'est le 0422-08-00001, le 09-99-00-405. Pour la ville de Butembo, voilà les numéros verts de la protection civile. Il y a aussi les numéros verts de la police qui vous sont toujours communiqués.
César Matumo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.